à tous et bienvenue. L'émission Compte-Gouttes se confine, mais se transforme. Je suis Caroline et je vous raconte une ou deux histoires tous les jours à 14h30 sur Radio Campus Grenoble 90.8. Profitez-en pour endormir vos enfants, augmenter le sonotone de belle-maman, profitez-en pour rêver et voyager. Il n'y a pas d'angoisse à avoir, on ne sera jamais à court d'histoire, car les contes, c'est comme l'eau de la mer. Tu peux en prendre autant que tu voudras, jamais le niveau ne baissera. Ouvrez grand votre cœur, faites-y un petit peu de place, parce qu'aujourd'hui, je vous raconte des histoires d'amour. Voici, pour commencer, Londine dans son étang. Il était une fois un meunier qui avait la vie agréable avec son épouse. Ils avaient de l'argent, du bien, et leur richesse ne faisait que croître d'année en année. Mais le malheur survient de nuit. Et de même que leur richesse s'était accrue, de même elle décrut de jour en jour, finissant par laisser le meunier si pauvre que c'était tout juste s'il pouvait encore dire qu'il était chez lui dans le moulin qu'il habitait. Il en était si tracassé que le soir, après la journée de travail, il ne trouvait point de repos dans son lit et ne cessait de se tourner et retourner en proie à ses soucis. Un matin, n'y tenant plus, il se leva dès l'aube et s'en alla dehors, espérant y respirer plus à l'aise. Comme il passait sur la murette de retenue des eaux du moulin, le soleil jeta son premier rayon et le meunier entendit frémir quelque chose dans l'étang. Il se retourna et vit émerger lentement de l'eau une belle femme dont la blanche nudité s'enveloppait des longs cheveux qu'elle avait, de ses mains délicates, répartis de part et d'autre de ses épaules. Voyant bien qu'elle était Londine de l'étang, il fut pris d'une telle peur qu'il n'arrivait plus à savoir s'il devait fuir ou rester là. Londine le tira d'embarras en lui faisant entendre sa douce voix, l'appelant par son nom et lui demandant pourquoi il avait l'air si triste. Sur le premier moment, le meunier n'avait pas de voix pour répondre. Mais il reprit courage en l'entendant lui parler si gentiment et il finit par lui raconter qu'il était riche et heureux naguère, mais qu'à présent il était devenu si pauvre qu'il ne savait que devenir. « Rassure-toi et sois tranquille, » lui dit Londine. « Je te ferai plus riche et plus heureux que tu ne l'as jamais été, pourvu seulement que tu me promettes et que tu veuilles me donner ce qui vient de naître chez toi, dans ta maison. » Pensant qu'il ne pouvait être question que d'un chien ou d'un chat nouveau-né, le meunier n'hésita pas un instant et lui promit ce qu'elle voulait. Londine disparut au fond des eaux et lui-même s'en revint tout rasséréné et plein d'enthousiasme à son moulin. Avant même qu'il y fût, une servante l'appela du seuil et lui cria, toute heureuse, que sa femme venait de lui donner un enfant, un garçon. Le meunier en fut comme foudroyé, comprenant aussitôt que Londine perfide le savait et l'avait floué. La tête basse, il alla jusqu'au lit de sa femme, et quand elle lui demanda pourquoi elle ne se réjouissait pas d'avoir un enfant aussi beau, il lui dit ce qui lui était arrivé et quelle promesse il avait faite à Londine. « À quoi bon bonheur et richesse si je dois perdre mon enfant? Mais hélas, que puis-je faire ?» Que pouvait-il faire en effet? Personne, ni aucun des parents accourus pour le féliciter, ne sut trouver ou un conseil ou un remède. Mais le bonheur, sur ces entrefaites, s'en revint visiter la maison du meunier. Tout ce qu'il entreprenait était une réussite, et l'on eût dit que les caisses et les coffres se remplissaient tout seuls, que l'argent se multipliait dans l'armoire pendant la nuit. Sa richesse dépassa bientôt ce qu'elle avait jamais pu être, mais il était incapable d'en jouir sans arrière-pensée. La promesse qu'il avait donnée à Londine lui torturait le cœur et il tremblait de crainte, à chaque fois qu'il se trouvait près de l'étang, qu'elle ne sortît de l'eau pour la lui rappeler. Jamais il ne laissait l'enfant s'en approcher. « Fais attention, » lui recommandait-il, « si tu touches à l'eau, une main en sortira pour te prendre et te tirer au fond. » Néanmoins, les années passèrent et comme Londine ne se montrait toujours pas, il finit petit à petit par se tranquilliser. Jeune homme, l'enfant partit en apprentissage chez un chasseur. Son temps terminé et devenu lui-même un chasseur accompli, il fut engagé par le seigneur du village et attaché à son service. Il trouva à son goût une jeune fille du village, jolie et vertueuse, et lorsque son seigneur s'en aperçut, Il lui donna une petite maison qui leur permit d'abord de se marier, puis d'y vivre heureux et tranquilles en s'aimant de tout leur cœur. Le chasseur, un jour, avait pris un chevreuil en poursuite et avait réussi finalement à l'abattre après que l'animal eut débouché de la forêt et se fût détourné en terrain découvert. Il ne remarqua pas qu'il se trouvait si près du dangereux bassin où il alla, tout naturellement, laver à grande eau ses mains poisseuses de sang après qu'il eut vidé son gibier. À peine eut-il plongé ses mains dans l'eau, voici que surgit l'ondine toute souriante, qui l'enlaça de ses bras mouillés et l'entraîna si vite qu'il fut comme englouti sous les eaux qui l'ensevelirent. Le chasseur n'étant toujours pas rentré chez lui quand tomba le soir, sa jeune femme s'inquiéta. Elle sortit à sa recherche en se doutant déjà de ce qui lui était arrivé, parce qu'il lui avait si souvent répété qu'il devait faire attention au piège de l'ondine et ne jamais s'approcher des eaux de l'étang. Elle y alla tout droit, et fut certaine de son malheur quand elle vit sa gibecière qui était là, près du bord. Désespérée, et se tordant les mains, elle appela son bien-aimé, et cria son nom au milieu des sanglots, mais en vain. Elle fit le tour de l'étang, l'appela de nouveau de la rive opposée, invectiva l'ondine et lui jeta les plus dures paroles, mais rien, ni personne, ne lui fit de réponse. Le miroir de l'eau demeurait immobile, avec une moitié de lune qui s'y reflétait fixement et qui semblait la regarder, elle, avec sa moitié de figure impassible. La malheureuse épouse ne s'éloigna pas de l'étang, tantôt avec des cris déchirants, tantôt étouffée de sanglots, tantôt encore avec une plainte sourde qui s'arrachait du fond de son être. Elle allait et venait d'un bord à l'autre, courait tout autour sans arrêt. À bout de force, elle finit par s'affaler sur le sol et sombra dans un épais sommeil où, bientôt, elle eut un rêve. Elle grimpait, folle d'angoisse, entre deux énormes parois rocheuses, des épines et des ronces lui déchiraient les pieds, une pluie violente lui battait le visage et le vent sifflait dans ses cheveux défaits. Mais au sommet l'attendait un tout autre spectacle. Le ciel était bleu et la brise légère. Sous ses pieds, une pente douce descendait jusqu'à une jolie petite cabane au milieu d'un gazon magnifiquement vert et merveilleusement fleuri. Elle y alla, ouvrit la porte et se trouva en présence d'une vieille à cheveux blancs qui l'accueillit d'un geste amical. Ce fut alors que la malheureuse se réveilla. Le jour s'était levé déjà. Avec résolution, elle décida d'obéir immédiatement à son rêve et se mit à gravir péniblement la montagne où tout se présenta exactement comme elle l'avait déjà vu dans son rêve. La vieille femme la reçut cordialement et lui montra une chaise en la priant de s'asseoir. « Il faut qu'il te soit arrivé malheur, lui dit-elle, pour que tu viennes à ma cabane solitaire. » La jeune femme en pleurs lui raconta ce qui lui arrivait. « Console-toi, lui dit la vieille femme, je vais t'aider. Voici un peigne d'or. Tu attendras la nuit de la pleine lune et tu iras t'asseoir au bord de l'étang pour t'y peigner tes longs cheveux noirs. Mais quand tu auras fini, tu laisseras le peigne d'or tout au bord. » La jeune femme rentra chez elle et le temps lui parut bien long jusqu'à la pleine lune. Enfin, le disque entier apparut dans le ciel et elle gagna l'étang, s'assit au bord, et peigna ses longs cheveux noirs avec le peigne d'or. Quand elle eut fini, elle le posa tout au bord, près de l'eau. Il y eut alors un remous dans les profondeurs. Une vague surgit, atteignit la rive et se retira en emportant le peigne. Le temps, à peine, qu'il arriva au fond, et voilà que s'ouvrait le miroir de la surface pour laisser apparaître la tête du jeune chasseur. Il ne dit rien, mais fixa sa femme d'un regard poignant de tristesse. Au même moment, se levait une seconde vague qui vint, en bouillonnant, engloutir à nouveau la tête de l'homme. Tout avait disparu l'instant d'après, et les eaux calmes de l'étang reflétaient comme devant la face pleine de la lune. Inconsolable, la jeune femme rentra chez elle, où néanmoins son rêve lui montra de nouveau la cabane de la vieille femme. Elle repartit dès le matin, et grimpa jusqu'à la cabane pour confier son chagrin à la vieille femme. « Attends la prochaine lune, lui dit-elle en lui donnant cette fois une flûte d'or. Tu iras sur le bord de l'étang et tu joueras une jolie chanson avec cette flûte, et quand tu auras fini, tu la laisseras sur le sable du bord. » Ce que lui avait dit la vieille femme, elle le fit le moment venu. Et quand elle eut fini, à peine eut-elle laissé la flûte sur le bord, que l'eau de l'étang bouillonna, fit une grosse vague et qui emporta la flûte au fond de l'étang. Aussitôt après, la surface s'ouvrit, laissant apparaître non plus seulement la tête du chasseur, cette fois, mais le buste entier hors de l'eau. Il tendit les bras vers sa femme, passionnément, mais fut de nouveau englouti par une seconde vague qui déferla sur lui et le fit disparaître. « Hélas !» gémit-elle. « Si c'est pour le perdre aussitôt, à quoi me sert-il de voir celui que j'aime? Ce n'en est que plus désespérant !» Le cœur lourd de chagrin, elle s'en alla de nouveau, mais le rêve lui montra une fois de plus la cabane de la vieille femme. Elle s'y rendit, et la vieille lui donna un rouet d'or en lui prodiguant ses consolations. « Tout n'est pas dit encore, » l'assura-t-elle. « Attends jusqu'à la prochaine lune. Tu iras t'installer sur le bord de l'étang avec le rouet. Tu fileras ton plein fuseau, et lorsque tu auras terminé, tu laisseras le rouet sur le bord de l'eau. » La jeune femme exécuta tout cela scrupuleusement, porta le rouet au bord de l'étang dès que se leva la pleine lune, s'assit et fila son plein fuseau en travaillant avec ardeur. Elle venait juste de terminer et avait à peine laissé le rouet sur le bord que déjà l'eau bouillonnait plus puissamment que jamais dans les profondeurs. Et une énorme vague s'est levée et elle a entraîné le rouet avec elle en se retirant. Au beau milieu de l'étang, l'instant d'après, jaillit hors de l'eau la tête ruisselante de l'homme, et le buste suivit, puis le corps tout entier du jeune chasseur apparut. Il se jeta sur le sec, prit la main de sa femme et s'enfuit avec elle, courant de toutes ses forces. Il ne s'était guère éloigné encore quand soudain, avec un grondement terrifiant, toutes les eaux de l'étang sortirent de leur lit pour se ruer dans la campagne et l'inonder sous une poussée formidable. Les deux fugitifs se voyaient déjà morts, mais la jeune femme, dans son effroi, appela la vieille à son secours, et tous deux se trouvèrent changés en un clin d'œil, lui en crapaud, elle en grenouille. Le flot qui les avait rejoints ne put évidemment pas les faire périr, mais il les sépara l'un de l'autre et les rejeta très, très loin. À la fin du tumulte, quand l'eau se fut retirée, ils retrouvèrent l'un et l'autre leur forme humaine en posant le pied sur le sec. Mais aucun des deux ne savait ce qu'avait pu devenir l'autre. Lui d'un côté, elle de l'autre, ils étaient chez des étrangers qui ne connaissaient rien de leur patrie et n'en avaient jamais entendu parler. Entre deux se dressaient de hautes montagnes et se creusaient de profondes vallées qui les séparaient puissamment. Mais comme il leur fallait gagner leur vie, ils s'employèrent l'un et l'autre à garder des moutons. Et durant de longues années, languissant l'un de l'autre, et accablés de la même tristesse, ils menèrent paître leurs troupeaux par monts et par veaux. Alors que le printemps, une fois de plus, renaissait sur la terre, ils partirent tous les deux, un jour, à la tête de leurs troupeaux, et le hasard voulut qu'ils allassent l'un vers l'autre. Gardant ses bêtes sur le flanc escarpé d'une haute montagne, il vit de loin, là-bas, sur un autre versant, un autre troupeau en train de paître, et il y poussa lentement ses moutons. La bergère et le berger se rencontrèrent dans un vallon, mais ils ne se reconnurent point, bien qu'ils fussent très heureux tous les deux de n'être plus seuls comme ils l'avaient été si longtemps. À partir de ce jour, ils prirent l'habitude de se rejoindre avec leurs bêtes. Ils ne parlaient guère, évidemment, mais la présence de l'autre était pour chacun d'eux une douce consolation. Et puis un soir, alors que la pleine lune brillait au ciel, quand ses moutons étaient déjà parqués, le berger tira la flûte de sa poche et on joua un air triste et beau. Lorsqu'il cessa, la bergère était en larmes. « Pourquoi pleures-tu ? » lui demanda-t-il. « Oh ! » lui répondit-elle. « C'était aussi une nuit de pleine lune comme celle-ci quand j'ai joué pour la première fois ce même air sur la flûte et la tête de mon bien-aimé est apparue, surgissant hors de l'eau. » Ce fut comme si ses yeux s'étaient dessillés tout à coup. Il la regarda et reconnut en elle sa femme bien-aimée. Au même instant, en voyant son visage sous le clair de lune, elle le reconnut aussi. Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre et leurs lèvres se joignirent. S'ils furent heureux, Personne n'a besoin de le demander.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you.
J'espère qu'il reste un peu de place dans votre cœur pour cette deuxième histoire d'amour qui s'appelle « La mariée et le vagabond ». Mikos ne savait rien faire, hormis courir les routes et mendier son pain. C'était un beau garçon pourtant, jeune, de haute taille et d'aimable figure. Mais il aimait la liberté et il préférait ne rien posséder plutôt que de travailler pour acquérir du bien. Au hasard de ses voyages, il apprit un beau jour qu'un mariage avait lieu dans un village voisin. Or, qui dit mariage dit bon vin, et en plus, il avait grand faim. Bonne affaire, pensa-t-il. Une rivière coulait en bordure du chemin. Afin d'être présentable pour la cérémonie, notre gaillard décida de faire un brin de toilette. Hélas, tandis qu'il se baignait, un coup de vent emporta ses vêtements, de sorte qu'au sortir de l'eau, il se retrouva nu comme la main. Tout autre que lui se fût affolé, mais Mikos prit la chose avec sérénité. Afin de ne point causer de scandale au cas où on le surprendrait, il s'enduisit le corps debout, puis, trouvant une grange, courut s'y réfugier. Cette grange se trouvait sur les lieux de la noce. Bientôt, des cris et des rires s'élevèrent dans la prairie où les tables du banquet avaient été dressées. Une foule joyeuse entourait les mariés, des couples dansaient au son de l'accordéon. « Dès qu'il fera nuit, je ramperai jusqu'au buffet », se dit Mikos en observant la scène par une lézarde du mur. À la faveur de l'obscurité, nul ne remarquera ma tenue. Et, afin de tromper son attente, il s'endormit dans le foin. Une série d'explosions l'éveilla en sursaut quelques heures plus tard. Un grand feu d'artifice illuminait le ciel nocturne. Le public, le nez en l'air, applaudissait gaiement. « C'est le moment !» décida Mikos. « Personne ne fait attention à moi, glissons-nous discrètement dehors. » Il n'en eut pas le temps car, à cet instant précis, une étincelle tomba sur le toit de la grange qui s'embrasa. Et tous purent voir jaillir des flammes un être gesticulant, hurlant couvert de terre et hérissé de brins de paille où s'accrochaient des feux follets. Un souffle d'épouvante plana sur l'assistance. « Le diable !» dit quelqu'un. Le diable, le diable! Répétèrent d'autres voix en écho. Immédiatement, ce fut la débandade. Dans un désordre indescriptible, la foule s'enfuit, les plus rapides bousculant les plus lents, les plus forts piétinant les plus faibles. Et ne demeurèrent dans le pré dévasté que Mikos et la mariée, cette dernière entravée par ses longues jupes, n'ayant pu suivre son époux qui s'était enfui sans l'attendre. Ce qui se passa ensuite, je l'ignore. Il faisait bien trop sombre pour que l'on distinguât sous la voûte étoilée autre chose qu'un voile blanc et une masse noire. Ce que je sais par contre, c'est que la femme a préféré un homme courageux qui est resté plutôt qu'un lâche qui l'a abandonné. C'était l'émission Compte-Goutte enregistrée depuis la maison. Portez-vous bien et à demain.